Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 mars, ainsi que le 12 Adar, et comme aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous terminons cette série de cours sur Purim, et que, sauf Ma'asi Be'machashava Trila, selon le principe connu que on termine une chose d'une manière royale, et ce cours Be'ezrat Hashem, on l'espère, sera la couronne de tous les cours qui ont été donnés sur Purim depuis le début. Donc ce cours est consacré pour tous ceux qui auront le mérite d'être cités pour ce cours, et ça sera un petit peu long. En tous les cas, pour la guérison totale et définitive de Chaya Amar Ben Esther, de Daniel Patrick Ben Rachmouna Yitzhak, ainsi que pour la bar mitzvah qui aura lieu à Purim, du jeune Ethan Aaron Korshia, et ainsi que pour la guérison de Meir Haddad, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Olatebeka, de Shimon Elbaz Ben Simi Aboudaram et de Daniela Elbaz Bat Masodi Marcel Hayash, et encore une fois pour la guérison de Meir Ben Maïsha Misfitus. En tous les cas, on doit juste rappeler, parce que j'avais promis de le faire hier, ça n'a rien à voir avec Purim. Vous vous rappelez qu'hier, un jeune adolescent de 15 ans m'a contredit pendant le cours. C'est pas mon fils d'ailleurs, certains ont pu croire que c'était mon fils, parce que j'ai dit tel fils, tel père, tel fils. Je me serais pas permis de dire une chose pareille, c'était mon fils. Donc bien sûr, c'est pas mon fils. Et donc il m'a contredit en plein cours, et fort de mon titre de Rav et de mes grandes connaissances, je lui ai dit: mon enfant, généralement tu as raison, mais cette fois-ci tu t'es trompé. Eh bien cet enfant a attendu la fin du cours, son père vient de rentrer, il m'a dit: allez chercher le livre, et il m'a montré dans le livre que le Rav s'était trompé. Et donc effectivement, je me suis trompé hier, et je suis fier et heureux de m'être trompé, parce que ça montre la grandeur de notre peuple. Vous rendez compte, un enfant de 15 ans qui arrive à montrer à un petit Rav comme moi que je me suis trompé, et qu'il insiste, et qu'il me dit: apportez le livre, et qu'il me montre dans le livre que je me suis trompé. Je me suis, en vérité, bon, je suis même un grand Rav, je ne me suis pas trompé de beaucoup, parce que c'était le frère de Yoav. Moi, j'ai dit Yoav, et c'était son frère Abishai, effectivement. Mais imaginez un verset perdu parmi des milliers de versets dans le Tanakh. Il faut quand même le faire à 15 ans, pour avoir ce réflexe inimaginable. Et donc, ça prouve, beau Hachem, véritablement, on doit être heureux que des choses comme ça se produisent. Parce que qu'est-ce que nous avons, nous, comme espoir, notre génération, si ce devoir, la génération prochaine, nous dépasser. Et beau Hachem, que les enfants de 15 ans, aujourd'hui, dépassent les gens de notre génération. Ça montre à quel point le peuple juif est en train, depuis fort longtemps déjà, de revenir à ses sources, de revenir à toutes ses forces. Et ces enfants-là seront les enfants de la délivrance. Et qu'il y en ait encore des millions et des millions comme ça, et qu'après des millénaires, que notre peuple puisse encore produire des enfants pareils. Le maître du monde peut être fier de son choix qu'il a fait il y a 3500 ans, il ne s'est pas trompé de peuple, et on continue maintenant. En tous les cas, on reprend ce que l'on a expliqué, en terminant comme je l'ai dit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire pas mal de choses aujourd'hui, parce que la lecture est fabuleuse. Je vais lire devant vous et expliquer. On n'aura pratiquement pas besoin de commentaires, parce que la lecture est déjà tellement, tellement, tellement parlante, surtout qu'elle vient après toute une série de cours. Elle est empreinte, cette lecture-là, du Targum Sheni, qui est un Targum parallèle à celui sur lequel on a travaillé pratiquement pendant les 2 semaines, qui est un Targum, on ne connaît pas trop les origines, peu importe, c'est pas tellement important, mais en tous les cas, un commentaire extraordinaire, qui date bien sûr d'il y a à peu près 2000 ans, à l'époque où on écrivait les Midrashim, les Targumim, etc., peut-être un peu plus que 2000 ans même, et donc qui va nous expliquer le retournement inimaginable de Assuérus. Ce retournement, d'abord il est contre, après il est pour, donc d'abord il est contre Israël parce qu'il est du côté d'Aman, après il est pour Israël parce qu'il est du côté d'Esther et Mordechai. On va voir comment le Targum, écrit il y a 2000 ans, donc d'une certaine manière, bien avant toute l'expérience que nous, peuple juif, avons malheureusement acquis en cette fin d'exil qui dure depuis 2000 ans, et combien ces choses sont parlantes, combien ces choses vont nous rappeler de tristement célèbres souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Certains passages, je le dis tout de suite, vont être un petit peu lourds et durs pour nous à lire et à traduire, parce que ça réveille tellement, 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 tellement de, de choses douloureuses pour notre peuple. Je fais allusion à toutes les accusations que notre tradition a retenues et écrites, cette tradition, c'est-à-dire ce que Aman a dit sur nous pour faire valoir son envie de nous détruire jusqu'à ce que Ahasuérus accepte. Donc tout ce que nos maîtres transmettent, qui étaient les arguments de Aman. Et puis après, on va voir donc comment il s'est retourné. Donc on va lire ce qu'on va lire. On va encore une fois commenter quand c'est nécessaire. Mais le texte, vous allez voir, est tellement, tellement parlant qu'il couronne d'une manière assez extraordinaire tout ce qui a été fait et dit sur Pourim depuis la semaine dernière. Et surtout qu'il est d'une actualité, ce texte-là, tellement brûlante qu'on n'arrive même pas à s'approcher tellement ça brûle. Donc tout commence lorsque Aman vient donc demander à Ahasuérus d'accepter, de lui donner la possibilité de nous détruire. Et donc il y a un très 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 long texte d'arguments avancé par Aman. Je ne vais bien sûr pas tout lire parce que c'est très long, vous pourrez le voir pour ceux qui le veulent. Et j'ai choisi, selon mon choix à moi, les morceaux qui me paraissent les plus importants et je commence. Alors il lui dit, c'est directement en hébreu. En vérité, le Targoum était en araméen, mais il a été accompagné d'une traduction que d'autres ont fait beaucoup plus tard en hébreu. Donc, ça sera plus facile pour nous. On rentre directement dans le texte en hébreu. Il lui dit, « Vayomer Aman le meler Achashverosh. » Aman dit à Ahasuérus, « Yeshno amechad Yehudi. » Il y a un peuple, celui qu'on appelle le peuple juif. « Mefuzar ou Mefurat ben Amim, tu le sais, ils sont éparpillés au milieu des nations. » Et ils se trouvent éparpillés au milieu des 127 provinces que tu gouvernes. Vehem geim vegovelev, ce sont des orgueilleux arrogants. Mitamgim, qui passent leur temps à profiter de la vie. Et regardez ce qu'il dit. Donc encore une fois, ça va nous faire très très mal, parce que pour nous, encore une fois, sans exagérer, ça rappelle tellement, tellement de choses monstrueuses qui nous sont arrivées et qui continuent d'une certaine manière encore. Dans cette Europe et un peu partout ailleurs, qui n'oublions pas à choisir la religion de l'amour du prochain, n'oublions surtout pas où nous sont arrivées toutes ces choses-là, mais bien qu'elles ont été dites en Perse à l'époque, elles sont encore plus vraies dans l'Europe que nous avons connue pendant 2000 ans. Oui.
Ça rappelle la fameuse phrase de De Gaulle, le peuple sûr de lui est dominateur.
Ah oui, je veux dire, c'est parce que c'est encore
plus vrai. Élu est sûr de lui.
Ouais. Juste après la sortie d'Auschwitz, bien sûr, évidemment. D'où le dessin de. Comment s'appelait-il ce dessin où on voit donc
Pim,
etc. Bon, ok, donc tout de suite la présentation des juifs, d'accord ? Des orgueilleux arrogants qui passent leur temps à jouir. Je ne sais pas trop où on jouissait, dans les ghettos d'Ukraine, de Pologne, dans les shtetls de Russie, dans les trains bondés qui nous menaient à Auschwitz et dans les camps de concentration. Alors c'est nous, on a dû avoir, pauvre Cham, quelques bons moments quand même. On a quand même le droit de respirer un petit peu. Mais disons que sur 2000 ans d'histoire avec nos voisins européens, qui c'est qui compte sur les 5 doigts de la main les bons moments ? Je ne sais pas si on arrive à 5 doigts. Mais c'est peu importe, n'oublions pas que l'exil s'est passé de la manière la plus extraordinaire pour nous, de grands jouisseurs. On continue. Et il dit la chose suivante. De toute façon, ils ont un comportement incompréhensible pour nous. Et ils ont une religion que véritablement est différente, très différente de toutes les religions qu'on connaît. Pourtant, toi, tu es roi sur 127 pays, tu connais 127 religions, trouve-moi-en une comme la leur. Védatenu et Namolchim. Et bien sûr, hors de question pour eux de suivre notre religion. Umaasenu Navsham Lochafetsa. Et tout ce qu'on fait, de toute façon, ne trouve pas grâce à leurs yeux. Alva, il y aurait eu tellement moins de juifs assimilés si c'était vrai. Et donc, Umelechet, Ameler et Namosim. Et de toute façon, ce ne sont pas des bons patriotes. Dès qu'il s'agit d'aider la nation, tu ne peux pas compter sur eux. J'ai même pas envie de répondre. D'abord parce que pour vous et moi, c'est insultant de répondre. C'est vrai que le cours est entendu par d'autres qui peut-être ont besoin qu'on leur précise à quel point c'est faux. Juste une seule précision. Tout ce passage-là, regardez dans le texte, survient juste après que la Megillah elle-même nous dit que Mordechai vient de déjouer un complot contre le roi Ahasuérus, que deux de ses plus fidèles serviteurs étaient en train de comploter pour lui couper la tête, et que Mordechai, le juif, le sale juif, le traître, le non-patriote, lui, s'est empressé d'aller faire savoir au roi qu'il était en danger. puisque c'est finalement ce qui va sauver Mordechai quand le roi ne va pas dormir, qui va demander qu'on lui apporte les livres, etc. Vous connaissez toute l'histoire, bon, c'est l'histoire qu'on a appris depuis 50 ans. Mais en tous les cas, donc, on vient de nous dire que Mordechai vient de sauver le roi Assuérus d'un complot. Et deux jours après, vient Haman et qui lui dit « Ah, pas moins patriote que les Juifs !» Mais on continue. Et donc, regardez, « Ou que Shéroïm otanou !» Et les Juifs ont une tradition lorsqu'ils voient un non-Juif passer dans la rue, « Rokekim embaret !» Il crache. Vous en connaissez beaucoup des Juifs qui crachent? Bon, peu importe. Je vous dis, ça va nous faire mal ce texte, là, on est obligé de le lire. Mais c'est extraordinaire, le texte l'a écrit il y a plus de 2000 ans. Ils n'ont pas connu les Européens, celui qui l'a écrit. C'est incroyable. On ne savait pas que les Perses pensaient déjà ça de nous. Alors on continue. Et donc, je reprends un autre texte un peu plus loin. Ubaim le Bet Knesset, sache, je vais te dire de quoi ils parlent, de quoi ils complotent dans leur synagogue. Korim Bessifrem, ils ont des livres comme ça qui cachent et qui sortent quand personne ne regarde. Metargemim, des livres qui sont écrits dans un langage que nous, on ne peut pas comprendre. D'accord ? Et tu sais ce qu'il y a marqué dans leur livre ? Mekaleli Malkenu. Toutes sortes de malédictions à notre égard, contre le roi, contre les gouvernants, etc. Comprenez ? Vessarenu et contre tous ceux qui dirigent le pays. Et dites-moi, ça fait combien de millénaires que pratiquement dans toutes les synagogues de Gola jusqu'à aujourd'hui, le Shabbat après-midi, qu'est-ce qu'on récite après la lecture de la Torah? La bénédiction pour le salut, le bien-être du roi du pays dans lequel on se trouve. À tel point que nous, ça nous faisait un petit peu rager, parce que je veux dire, après Auschwitz, tu continues encore, je veux dire, très bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, si les Juifs sont crétins, c'est vrai. Mais pas parce qu'ils ont des malédictions contre les gouvernants, parce que jusqu'à aujourd'hui encore. En France, on continue à louer l'État français dans les synagogues. J'aimerais bien savoir si on le fait dans les églises. Dans les mosquées, n'en parlons pas. Le seul endroit de culte en France, aujourd'hui encore, et en Allemagne, où au moment le plus important de la prière, après la lecture de la Torah, on bénit officiellement l'État dans lequel on vit, c'est dans les synagogues juives. Jusqu'à aujourd'hui encore. Voilà ce que ce salaud dit. Mais c'est pas grave. C'est pas important si c'est vrai. Le hicar, c'est que plus c'est un mensonge et plus ça va passer. Le chien s'y met, le cours va être terrible. On y va. Et donc, dans leur Beta Knesset, ils se mettent à nous maudire et à nous maudire nos rois et nos dirigeants. On continue. Regardez ce qu'il dit maintenant. Regardez ça. Et ne sais-tu pas que le huitième jour après la naissance, Kortim et Torlat bnehem, ils coupent le prépuce à leurs enfants, ve'en merachmi malem, avec une telle cruauté. Est-ce que tu te rends compte que c'est ce peuple? Est-ce que tu te rends compte une maman qui apporte son enfant à peine né se faire charcuter? Et ils sont tous heureux, ils sont tous contents? Mais des parents qui sont capables de faire ça à leur enfant, tu penses bien qu'ils n'auront pas pitié de nous si on tombe dans leurs mains? Jusqu'à aujourd'hui, vous inquiétez pas, c'est vrai. Vous savez qu'il y a une ville dans un des pays où le pays qui se veut le plus, on pourrait dire, je sais pas comment on dit en français, libéral, un peu libéral. Une ville qui est en train de faire des pieds et des mains depuis je ne sais combien d'années est presque en train de réussir à faire interdire la circoncision dans cette ville. Et l'accusation écrite, présentée au gouverneur et au tribunal, c'est parce que les Juifs, regardez comme ils sont cruels et barbares vis-à-vis de leurs propres enfants. Vous savez comment s'appelle cette ville ?
San Francisco.
D'accord. Il y a encore des Juifs qui vivent là-bas. Ou d'autres plus idiots encore qui vont visiter cette ville. San Francisco. Jusqu'à aujourd'hui, l'argument tient. Jusqu'à aujourd'hui. Nous martyrisons nos enfants avec sur la circoncision. Je ne répondrai pas, parce que ça serait trop descendre à ce niveau-là. Mais l'argument passe. Évidemment, c'est vrai, tiens. S'ils sont prêts à mutiler leurs enfants, alors si les nôtres tombaient dans leurs mains... Oh là là! On continue. Regardez maintenant. Bechodesh Nissan. Dans quelques jours, on arrive à Chodesh Nissan. Et quand arrive le mois de Nissan, le mois de Pâques, le mois de Pessah, Osim Shmonat Yamim Tovim, ils font 8 jours que eux appellent les jours de fête. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils nettoient toute leur maison et tous leurs ustensiles. Ils font attention qu'il n'y ait pas la moindre trace de pain, de ferment, de pain levé dans leurs ustensiles, dans leur nourriture. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, c'est en souvenir du jour où ils sont sortis d'Égypte. Ils appellent cette fête-là la fête de Pessah. Et qu'est-ce qu'ils font après avoir nettoyé toute leur maison du Hametz? Elle est très forte. Je vous garantis que Hitler, dommage qu'il n'a pas lu ce texte, parce qu'il se serait senti ridicule avec son Mein Kampf. C'est incroyable. Regardez. Mein Kampf, 2000 ans avant Mein Kampf. Regardez ce qu'il dit. Ubaim le batek nesiot, ils rentrent dans leur synagogue pendant cette période-là, et encore une fois, ils lisent leur livre monstrueux, la Kabbale juive. Attention. Et puis c'est écrit dans une langue que personne ne comprend. Et qu'est-ce qui s'y trouve? Bien sûr, plein de malédictions à notre égard. Des cousmous, des trucs comme ça, de la magie noire, le sabbat. Et on continue. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la chose suivante. De la même manière que nous avons détruit tout le vin de notre maison, que ça soit un signe pour que Dieu détruise tous les non-juifs de ce monde. Que le levain représente le non-juif, absolument les toquer à la porte là-bas, que le non-juif représente le levain, et la disparition, la destruction du levain est une allusion au fait que nous souhaitons un monde dans lequel il n'y ait que 14 millions de juifs, vidés de ses 7 milliards d'habitants. C'est ça le plan maléfique d'Israël, la conspiration juive, le protocole des sages de Sion. Cet homme qui a écrit ce texte, ce maître, n'a pas connu tout ce que nous avons connu après. C'est un pélé d'ailleurs, comment qu'il pouvait imaginer de choses pareilles? C'est encore loin de la mentalité des peuples il y a 2000 ans, une chose pareille. C'est véritablement un texte inscrit sous inspiration divine, parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour comprendre comment on peut être à ce point précis. Surtout, je répète, il y a plus de 2000 ans que ce texte a été écrit, les juifs n'étaient pas encore habitués à ce genre d'approche à leur égard. Aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident, mais il y a plus de 2000 ans, ce qui prouve que nos textes sont vraiment écrits par des maîtres qui ont une inspiration divine. Je continue. Et regardez, je saute, et regardez maintenant. On a fini avec Pessah, on arrive maintenant à Yom Kippour. Même si ils veulent nous l'enlever, on n'a pas le droit de demander pardon au bon Dieu à Yom Kippour. Ou bien Sarabo, quand arrive le 10e jour du mois de Tishré, ils se rassemblent, ils ont décrété un très très grand jeûne, et ils jeûnent. Ils obligent leurs femmes et leurs enfants, ainsi que leurs nourrissons qui sont privés de nourriture. Leurs nourrissons, non, parce qu'ils, s'ils sont capables de leur couper le E, vous pensez bien qu'à Kippour, on les laisse hurler pendant 24 heures, ils hurlent, ils viennent à peine de naître, ils veulent le lait de la maman, et la maman passe avec son sein au-dessus, ne t'auras pas à manger, t'as qu'à jeûner. Tu te rends compte, ce peuple? Et en plus, on les nourrit, ces parasites. La nation travaille pour eux. Quand même si on les gaze, on devrait l'envoyer aussi la note de gaz. Mais c'est l'histoire. Que Ben Gourion a reçu la note de gaz après. Comprenez? Bah oui, quand même. Ça vous fait pas rire, moi non plus. Je m'excuse pour la blague, elle était lourde. Alors, mais en plus c'est une vraie blague. Et allemande en plus. Alors, même leurs nourrissons, ils les privent de manger le jour de Kippour. Ils ont aucune pitié, même pour leur progéniture. Vous rendez compte? Un enfant qui vient de naître, on le prive du lait de sa mère pendant une journée. Alors, vous imaginez Assuérus? Quoi, c'est vrai, mais retenez-moi ou je fais un malheur! Mais c'est pas grave, on continue. Et en plus, ils ont le culot de dire que grâce au fait qu'ils affament leurs enfants, leurs fautes vont être pardonnées. Une allusion à leur dieu, tu t'imagines un dieu pareil? Mais c'est un crime contre l'humanité de laisser une telle idéologie se répandre dans le monde. Mais ils sont un danger pour l'humanité, ces gens-là et leur religion. Quand j'entends le mot judaïsme, je sors mon revolver. Bien qu'il a dit le mot culture, c'est pas grave. Qui c'est qui a dit ça? Goering. On continue. C'est Goering?
Goebbels,
pardon. Et donc, évidemment, et ce jour-là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font toute la journée, le jour du grand pardon? Eh bien, encore une fois, ils n'arrêtent pas de nous maudire et souhaiter notre mort et notre disparition. Bon, on continue. Je saute. Voilà. Et maintenant, regardez. Une fois avoir parlé très globalement de ce que sont les sales juifs, maintenant, il va faire une petite leçon d'histoire à Assuérus. Tu sais, aujourd'hui, les juifs sont dispersés au milieu des nations, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Heureusement pour nous, d'ailleurs, ils ont eu leur grande époque, malheureusement pour nous. Et regardez ce qu'il dit. « Ukshaya malchutam kayemet » lorsqu'ils avaient une nation et un royaume. Ils ont eu un roi, si je me trompe pas, je traduis directement, je crois qu'on l'appelait David, ouais, David. Mais tu sais pas, c'était un hitlérien, ce bonhomme. Il n'avait qu'un seul plan, génocider la planète tout entière. Je traduis directement. Leashmidenu, leaben otanu mina olam. Il voulait détruire tous les non-juifs de la planète. David, vous le saviez, vous? Je crois que même les nations peuvent lire dans la Bible, hein, l'histoire du roi David. Hein. S'il avait un défaut, le roi David, c'est qu'il était plutôt trop gentil que trop méchant. Mais c'est pas grave. Et le... Donc... Voilà, donc, et regarde maintenant ce qu'il dit. Ve'acharav, heureusement que nous avons notre sauveur pour détruire cette nation qui se voulait être le premier troisième Reich sur 10 000 ans. Ben oui, vous savez, sioniste, nazi, nanana. Rien n'a changé. Quand j'ai découvert ce texte il y a X temps, j'étais terrorifié. J'ai cherché, j'ai dit, mais qui est l'auteur? C'est pas possible, il a vécu il y a 50 ans, c'est pas possible. Et que, quand je me suis rendu compte qu'effectivement il a vécu à plus de 2000 ans, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais à 2000 ans, les juifs connaissaient pas ce genre de réaction vis-à-vis d'eux. C'était pas connu. On connaissait pas ce phénomène de plus le mensonge est monstrueux et plus il passe. Aujourd'hui, je veux dire, si on arrive dans un endroit et puis qu'on voit interdit aux chiens et aux juifs, qu'est-ce qu'on va demander nous? Ben pourquoi aux chiens? C'est normal que c'est interdit aux juifs, on est tellement habitués depuis 2000 ans. Mais regardez l'argument. L'argument c'est que le royaume de David se voulait être le premier troisième Reich de 1000 ans. Exterminer l'humanité tout entière. Heureusement est venu le sauveur du monde, on l'appelait comment? Le gentil, le bon, le merveilleux? Nabucodonosor, sauveur du monde, qui a enfin détruit cette méchante nation. Regardez. Est venu un grand roi, Nabucodonosor. Et il a décidé qu'il... On pourrait dire qu'il consacrerait toute son existence ou son règne à la destruction de ce premier troisième Reich. Il est arrivé. Il a détruit la nation et c'est comme ça qu'ils sont arrivés chez nous. C'est pour ça qu'on les a. C'est les descendants du troisième Reich, ces gens-là. Et donc, et malgré tout, écoute-moi bien, tu penses qu'ils ont pris une leçon? Tu penses qu'ils sont moins arrogants? Tu penses qu'ils sont moins orgueilleux? Qu'est-ce qu'ils disent partout où ils sont? Ils n'en sont pas moins orgueilleux, prétentieux. Et qu'est-ce qu'ils disent sans arrêt? Que nous sommes des fils de rois et nous refuserons d'être d'honnêtes patriotes là où nous sommes en exil. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'écrivent des lettres, parce que comme ils sont éparpillés, il faut bien communiquer, il n'y a pas encore l'internet, ils s'écrivent des lettres de pays en pays. Et sur ces lettres, il se donne des conseils comment comploter contre le roi qui est en place. L'affaire Dreyfus, quoi, entre nous, je veux dire, c'est ça, l'affaire Dreyfus, bien sûr. Bon, on continue, ça fait mal au cœur, mais on continue. Bon. Ve'alo yodim anachnu k'shirdu avotenu. Et donc, on continue, encore juste une phrase. Et bien que maintenant, ils sont anihim, medul dalim, bien que maintenant ils sont dans une situation où ils sont sans force et sans pouvoir, méfie-toi d'eux, parce que justement, ils profitent du fait qu'on ne fait pas attention à eux, vu leur situation aujourd'hui, pour comploter contre nous et préparer une révolution où ils seront à la tête de la nation et ils nous massacreront tous. Alors évidemment, c'est dans un livre biblique, donc c'est pas intéressant, mais malheureusement, si on ne savait pas que ça s'est passé exactement de la même manière jusqu'à aujourd'hui, pas jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe de la même manière, et rien n'a changé. Impossible de faire quoi que ce soit? Jusqu'à aujourd'hui, bon, on n'a pas le choix, c'est que le cours est important. Et donc... Mais il est incroyable ce chien. Comment il sait quand il doit sortir? Comment il le sait? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment il le sait? En plus, c'est en direct. Tout le monde voit que c'est un miracle. Voilà. Et le cours, dès qu'il est fini, à l'instant où je dis on arrête le cours, le chien s'arrête. Ça s'est passé plusieurs fois. D'accord ? On continue.
Essaye de dire pourquoi.
Mais non, parce que j'ai pas fini mon cours, donc je peux pas le dire. Et donc on continue. Oui.
On trouve la racine de ça dans ce que Pharaon disait. C'est-à-dire,
déjà la
cinquième colonne.
Évidemment. Comme tout a une allusion dans la Torah, tu fais très bien de rappeler que l'allusion, en quelques mots, à tout ce phénomène se trouve dans un verset de la Torah de Moshe, car rien ne peut exister dans la Bible qui suit la Torah de Moshe et dans l'histoire s'il n'y a pas une allusion dans la Torah de Moshe. L'allusion de la Torah de Moshe, c'est effectivement l'argument que Pharaon a dit pour commencer l'esclavage. Ils sont une cinquième colonne, le quatrième verset de Parshat Shemot, et si on ne les oppresse pas tout de suite, un jour ils comploteront contre nous pour se rallier à nos ennemis et prendre le pouvoir. L'argument, bien sûr qu'il est dans la Torah, mais dans la Torah, ce n'était que quelques mots d'un verset, même pas tout un verset. Là, c'est déjà toute une littérature. Et encore, à cette époque-là, c'est même pas encore vrai sur le plan historique. C'est un texte qui a été écrit pour notre génération. D'accord. Voilà. Maintenant, comment va réagir Assuérus à un tel mensonge ? Ben, comme c'est un dirigeant non-juif normal, il va réagir comme un dirigeant non-juif normal. C'est affreusement mensonger, donc ça va passer. Et donc, regardez sa réaction, pour qu'on n'ait pas de doute à la manière dont il a réagi. On continue. J'ai perdu le texte, il y a tellement de textes. Voilà. Et Aman, avant que Ahashverosh réagisse, Aman, pensant que Assuérus n'accepterait pas de lui donner la possibilité d'exterminer toute une nation sur un mensonge, alors il va essayer de le tenter avec ce qui généralement intéresse un roi. Kesef. Ben c'est pour ça qu'on a massacré les juifs pendant 2000 ans. Il fallait bien remplir les caisses de l'église ou les caisses du Seigneur. Parce que le Seigneur dépensait son argent avec ses beuveries et les curés, peut-être avec leurs maîtresses, avec les bonnes, j'en sais rien. En tout cas, il fallait bien les remplir, les caisses. Donc on se rappelait la veille de Noël et la veille de Pâques que les Juifs sont les grands ennemis de l'humanité. Donc ramenez-moi leur argent. Il fallait bien le faire. Donc il va essayer donc de l'amadouer avec de l'argent. Et il lui fait un calcul, il lui dit, regarde, je suis prêt à te donner, bon, peu importe, c'est pas à quoi ça correspond aujourd'hui, mais ça, sans doute ça faisait beaucoup d'argent, un mea reva shekel kesef par tête de pipe. Ils sont, dans ce peuple-là, 600 000. On pourrait dire, c'est la structure de ce peuple, les fameux 600 000 qui sont sortis d'Égypte. Donc, je te donne 600 000 fois un reva shekel kesef. Peut-être 600 000 fois 10 dollars ou 600 000 fois 100 dollars. Et il arrive au calcul et il dit, et ça fait en tout, ça va faire aseret alfim kikare kesef. Ce qui est l'équivalent, c'est quand même pas mal, de 10 000 lingots d'argent. Je ne sais pas ce que vaut le lingot d'argent de l'époque, mais enfin bon, c'est impressionnant. Et donc, je te demande une chose. Moi, je m'engage, parce qu'il va y avoir bien sûr un pillage et un butin, je m'engage à t'amener les 10 000 lingots d'argent, ou l'équivalent de 10 000 lingots d'argent, tu me laisses les massacrer. Quelle va être la réponse de Ahashverosh ? Ahashverosh lui dit la chose suivante. Il lui dit comme ça. Le Meller enlève sa bague, il lui donne la bague et il lui dit « A Kesef Natoun Lar ? Mais tu penses que j'ai besoin de leur argent, moi ? Est-ce qu'il me manque quoi que ce soit ? Est-ce que tu penses que je t'autorise à les massacrer pour de l'argent ? Non ! Je veux qu'on sache que je massacre ce peuple parce qu'il n'a pas le droit d'exister. Et si je prends ton argent, on va penser que je l'ai fait par intérêt, donc non, par idéologie. Je veux qu'on sache que l'extermination de ce peuple s'enracine dans une idéologie désintéressée parce que je veux que dans les générations plus tard, on me loue pour ce que j'ai fait d'avoir débarrassé le monde de cette saleté. Et si je prends de l'argent, tout le monde dira « Ouais, mais il était intéressé. » Donc il va très très loin dans l'acceptation de la thèse. C'est marqué dans le texte qu'il a refusé l'argent. Et il lui dit « Ve'aham la sod katov beinera. » Fais ce qui te plaît avec ce peuple. Ta 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 ta. Et voilà maintenant, le roi écrit donc maintenant des lettres qu'il envoie, donc des missives qu'il envoie dans tout son royaume. Vayikru Sofra Meler, Vayikatev Kechol Asher Tziva Aman Ala Yehudim. Et tout ce que Aman avait dit en ce qui concerne les Juifs était écrit, le résumé de ce que je viens de vous lire, et plus encore parce que je n'ai pas tout lu, était marqué sur ses missives, était envoyé à chaque gouverneur des 127 provinces pour le convaincre qu'effectivement il fallait détruire cette nation. Et tout était, comme dit le texte, tout était envoyé. Kedmut Trufim Bemeirut, on s'est précipité d'envoyer donc la description claire et précise de toutes les raisons pour lesquelles il fallait exterminer les Juifs. Et les lettres étaient signées Beshem Ameler, du nom du roi, même pas Aman, Venirta Venirtam Betabat Ameler, et scellées par le sceau du roi. Donc il n'y avait absolument aucune possibilité de dire que le roi n'était pas d'accord. Ça s'est fait derrière son dos, parce que non seulement c'était signé de son nom, et c'était scellé par le sceau dont seul le roi a la possibilité donc d'utiliser, son sceau privé. Et on continue. Et donc, les messagers ont été partout, et dans tous les pays où ils sont arrivés, ils ont pris conscience que l'ordonnance du roi à Meler était « Les Hashmid, les Harog, les Abed, et Kol Yehudim » d'exterminer tous les Juifs, Mina Arveat Zaken, les enfants comme les vieilles personnes, les femmes, tout ce qui bouge, et tout ça devait se réaliser à partir du 13 Adar, d'où la raison pour laquelle on jeûne le 13 Adar, du 13 Adar jusque, et ça devait se terminer, le 15 Adar. Et donc, on continue, qu'est-ce que je voulais ? Voilà. Et maintenant, regardez. Le texte va dire plus tard que le roi a envoyé aussi une lettre personnelle qui n'avait rien à voir avec Aman, dans laquelle lui-même, il appuyait les propos de Aman pour bien convaincre tous ses dirigeants qui allaient se poser la question, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Juifs? Ils nous ont jamais rien fait. Il fallait donc toute une idéologie, il fallait donc écrire plusieurs Mein Kampf, si vous voulez, Mein Kampf il y a 2000 ans, et regardez ce qu'il écrivait. Vechen katouf beigret azot, une missive secrète qui était passée par un autre canal qui, elle, peut-être s'adressait à ceux qui étaient véritablement chargés sur le terrain de massacrer les Juifs. Parce qu'on va voir, plus ou moins des détails. Dvarim kashim, des choses terribles que le roi écrivait, il rentrait même dans les détails. Umarim kaele, mimeni ameler achashverosh lechol amim, que j'écris moi en mon nom à tous les peuples, etc., etc. Et regardez ce qu'il dit. Entre autres, il commence sa missive de la manière suivante. Tout ce que j'ai dit est important parce que vous allez voir après ce qui s'est passé, si on a suffisamment de temps. Et regardez ce qu'il dit. Voilà que un homme, il va parler de Aman, qui n'était pas de notre race, de notre nation, de notre pays, c'est-à-dire qu'il va maintenant se justifier auprès des massacreurs pourquoi il a pris cette décision. Parce qu'est venu un homme que je présente comme un véritable sauveur de notre peuple, il nous a sauvés à temps avant que le complot juif s'exerce contre nous. Bien qu'il n'est pas de notre race, de notre pays, c'est un Amalécite, c'est pas un Perse. Il n'est pas de notre terre, de là la preuve qu'il n'est pas né là-bas. Comme je vous ai dit, il est né en vérité en Palestine, de l'époque. Via volei tosef banu, et il a décidé de venir vivre au milieu de nous. Lui, il ne sait pas qu'en vérité, c'est pas si évident que ça, mais ça c'est les cours que j'ai déjà donnés. Mais donc, il est venu vivre au milieu de nous. Pourquoi ? Pour nous protéger, nous sauver de nos ennemis. Et qui sont nos ennemis ? Avant de dire qu'ils sont nos ennemis, il dit « Chakarnu oto, j'ai fait une enquête sur lui. Et j'ai découvert que bien qu'il se fait appeler chez nous Memuchan, en fait son vrai nom c'est Aman, il est né Aman, c'est la raison pour laquelle après dans la Megillah on l'appelle que Aman, mais il y a un moment on l'appelle Memuchan, il avait changé, il s'était donné un nom perse. Et vous savez, en plus c'est un fils de roi, ou Ben Agag Ameler. Il vient de la lignée de Agag, le gentil roi que ce vilain Shmuel avait tué. Heureusement qu'il a eu le temps de faire un enfant. Grâce à ça, on a récupéré Aman. Et en plus, il vient de très très loin, il vient de Amalek. Donc c'est une famille qui a, on pourrait dire, des ancêtres illustres. Amalek, le grand, le bon Amalek. Agadol, le grand. Bon, je ne vais pas assez trop. Et donc, Vaisham Imenish est là. Et il m'a demandé l'autorisation de pouvoir s'occuper des Juifs, la solution finale. Et parce qu'il m'a fait la description de ta 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 ta. Donc qu'est-ce que le roi est en train de dire ? que finalement Ve'emkor ha'amazé lo letevar. J'ai accepté de lui donner l'autorisation, je lui ai vendu ce peuple pour qu'il le massacre. Ve'ata, et maintenant moi le roi, Achashverosh, me'od samarti. Si vous saviez comme je suis heureux de la décision que j'ai dû prendre, parce que c'est dur d'être le sauveur de l'humanité. C'est dur de nettoyer le monde de ses saletés. Ve'itav libi alai. Mais dans mon cœur, je suis tranquille. Je sais qu'un jour, l'humanité reconnaîtra ce que j'ai fait pour elle. Et vous savez, hein, Kesef Lola Karti, hein, ne croyez pas que j'ai fait ça pour l'argent, hein, j'ai pas pris de l'argent. Etc, etc, etc. Donc vous avez tous... Et regardez ce qu'il demande. C'est où ? Je vous demande de sortir tous. Urdu Ba'em, et de les persécuter. Velotachosu al kol malcheem. N'ayez pas pitié même de leurs dirigeants à eux. Velo al sareem, ni de ceux qui sont importants chez eux. Velo al ktaneem, ni leurs enfants. L'entraînement que recevait un nazi avant de partir sur le terrain. Artargu otam, mais tuez-les. Prenez leurs biens, parce que c'est moi, le roi Assuérus, qui vous demande de sauver le monde et de détruire jusqu'au dernier d'entre eux. Et il dit, Ve'ani Achashverosh, et moi Assuérus, Lochofet Shiyematse Yehudi Echad al Kol Eretz Malchuti. Je ne veux plus qu'il n'y ait qu'un seul, même pas un seul juif dans mon pays. Mais ça vous rappelle quoi ça? D'accord. C'est incroyable. J'arrête, parce que c'est déjà lourd. Donc, Assuérus est partie prenante. C'est lui qui veut. Même il rajoute des choses que Aman n'a même pas demandé. Il fait savoir que c'est avec son consentement et qu'il est heureux de le faire, qu'il a conscience dans son cœur qu'il est en train de sauver l'humanité et qu'il faut massacrer tout le monde. Et il rajoute qu'il n'en y ait plus un seul dans mon pays. Donc Assuérus est véritablement ici le destructeur. Finalement, qui se sert de qui? Est-ce que c'est Assuérus qui se sert de Aman ou Aman qui se sert de Assuérus? Sachez que dans le Talmud, Maseret Megillah, là-bas nos maîtres disent qu'en vérité, Aman croyait qu'il haïssait les Juifs plus encore qu'Assuérus, mais en vérité, Assuérus haïssait les Juifs encore plus que Aman. Pourquoi? Parce que le travail d'Aman avait réussi à la perfection. Il avait tellement retourné Assuérus que Assuérus haïssait maintenant les Juifs plus encore qu'Aman lui-même. Lui, c'est dans ses gènes, c'est un Amalécite. La suite de l'histoire, on n'a pas pu tout voir pendant 15 jours, mais la suite de l'histoire, vous la connaissez, le revirement, Esther, Mordechai, et finalement, ce changement d'attitude de ce roi qui n'a aucune personnalité. Et le roi, finalement, maintenant, se met du côté de sa tendre épouse et de Mordechai. Et voilà maintenant que le roi, à la fin de la Megillah, va envoyer de nouvelles missives à tous les dirigeants de son pays, pour faire savoir maintenant ce qu'est sa volonté, maintenant qu'il a changé d'avis. Et regardez comment le roi va se présenter. Et si nous ne connaissions que cette partie du cours, alors ça laisserait rêveur cette grandeur, cet amour que le roi Assuérus a pour nous. Regardez maintenant ce que cette ordure va écrire et dire. Il envoie une nouvelle lettre, c'est marqué dans le texte, à la fin de la Megillah. L'inaten dat me'et ameler Achashverosh. Je veux que vous connaissiez tous quelle est date, l'idéologie, c'est un mot religieux, l'idéologie religieuse du grand Assuérus. D'abord, vous allez voir comment il va se présenter. Je vous envoie à vous tous, dirigeants de tous mes pays, sur terre et sur mer, ainsi qu'à tous les soldats de mes armées éparpillés sur mes 127 territoires. Shlomechem Yarbe, je vous souhaite tout le bonheur. Je vous écris maintenant cette lettre, Leodia Lachem Gedulati, pour vous rappeler combien je suis un homme grand, gadol dans le sens, un homme noble, et que cette noblesse qui est la mienne est connue d'ailleurs par tous, ça vous en doutez pas, bien sûr, je suis vraiment un grand dirigeant. Et regardez ce qu'il dit. Ube Malchuti Logaiti, jamais je ne suis enorgueilli sur mes sujets. Vegdalti, jamais je me suis senti supérieur à qui que ce soit. Je vous rappelle juste qu'il y a eu une époque où l'oppression dans le pays était tellement, tellement grande que même si l'épouse d'Achashverosh voulait comparaître naturellement devant son mari, si elle n'avait pas un papier signé par Aman, elle était exécutée sur place. Il a fallu que Assuérus la voie à venir de loin pour lui jeter son sceptre pour que les soldats ne la tuent pas. Bah, dans un pays où une épouse ne peut même pas s'approcher de son mari, vous imaginez la tyrannie qui règne quand Aman avait plein pouvoir. C'est l'époque stalinienne, c'est l'époque nazie, et peut-être pire encore, parce que je ne pense pas que, comment s'appelait l'autre, Eva, ou je ne sais pas comment elle s'appelait, devait recevoir un papier de la main d'Himmler pour s'approcher de Hitler. Et ni Staline avec son épouse. Donc là, ça dépasse même l'entendement de ce qui a été entendu dans cette foutue terre, avec tout ce qui s'y passe. Donc, mais après, lui, il a honte de rien, Suérus. Vous savez bien à quel point je suis un homme tolérant, un homme noble. Jamais je ne me suis enorgueilli sur mes sujets. Donc, ce que je vais vous dire, écoutez-le bien, parce que vraiment, je suis moi-même tellement offusqué de ce qui s'est passé. Et regardez comment il prépare son coup. Les ma'antet shalom ram bachem. Vous savez que mon seul souci a toujours été qu'il y ait le bonheur pour tous mes sujets, pour tous ceux qui vivent sous mon autorité. Et j'ai toujours été tolérant avec tous les peuples et toutes les langues et toutes les religions et toutes les races. Tout le monde sait, c'est devenu légendaire, que dans mon pays, il y a la liberté d'expression, la liberté de culte absolue. Et regardez, et maintenant regardez ce que je vous écris, après vous avoir rappelé ma grandeur. Vous savez à quel point nous avons le bonheur, le mérite d'avoir parmi nous des gens qui sont tmimout, des gens qui incarnent l'intégrité même, ne'emanout, le patriotisme poussé à ses extrêmes. Je vous laisse deviner qui c'est. Hayehoudim, les juifs. C'est la même ordure qui parle. Mais rien n'a changé, croyez-moi. Et donc tout d'un coup maintenant, ah tiens, on est présenté comme l'intégrité personnifiée, comme le patriotisme personnifié. Asherem Oavim et Kol Ha'amim, c'est le peuple qui symbolise l'amour des nations. Le problème c'est que, cette fois-ci c'est vrai, mais qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Maintenant ou avant? Comment on est des juifs tordus et pratiquement incurables. On va se laisser avoir par le discours. Parce que sortir un juif de sa maladie, c'est très très dur. Quand il entend qu'on parle comme ça de lui, « Oui, c'est vrai, vraiment, tu m'aimes. Oui, vraiment. Mais quand je vous dis que ma nation sera à côté de la vôtre, et ce n'est pas une plaisanterie, parce que le devoir de mon pays... d'assurer votre sécurité et votre droit à l'existence est une chose sur laquelle on ne peut même pas discuter. Et je n'ai absolument pas repoussé l'option militaire. Vous pouvez me faire confiance, car quand moi je parle, je sais ce que je dis. Quand les juifs entendent ça, on ne s'en sortira jamais. On ne s'en sortira jamais, 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 jamais. 2000 ans que ce texte est écrit. 2000 ans. Il a dit, on a le droit à l'existence, et puis, il a même rajouté, quand je le dis, c'est pas des blagues. Il a même dit, tu vois qu'il nous aime, hein. Tu vois, on continue. C'est pas grave, on continue. Et donc, est-ce que vous connaissez un peuple qui donne tant de respect à ses dirigeants? Il avait dit tout le contraire avant. Il avait dit tout le contraire. Mais comment il peut écrire en l'espace de quelques mois, il y a quelques mois entre les deux lettres, comment il passe ce point? Comment une personne qui, il y a quelques temps, montait à la tribune de la Maison des Nations et disait dans un discours d'intronisation... Le problème du monde, c'est le conflit israélo-palestinien. Ça veut dire que ramener tous les problèmes du monde à ce petit village d'Astérix. Ça veut dire, dans le langage d'aujourd'hui, parce qu'il ne peut pas l'écrire comme l'autre l'a dit, mais dans le langage d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? La solution finale est là. Si on arrive à résoudre le problème, eh ben, il n'y aura plus de problème. Et tout le monde comprend, selon les codes diplomatiques, ce que signifie résoudre le problème. Ça veut dire couper le pays de telle manière qu'il soit absolument ingouvernable, intenable, irrespirable, et la nature fera le reste. Plus aucun juif n'y arrive, parce que pour vivre sur un si petit territoire, plutôt rester là où on est, tous ceux qui ont les moyens et surtout l'intelligence s'en vont ailleurs parce qu'on leur propose de gros salaires, et ne va rester qu'un ramassis de pauvres types qui ne feront qu'une bouchée devant leurs envahisseurs. Donc la solution finale, on la connaît. Mais quelques mois après, il n'y a pas de problème. Hein. Quand je le dis, ce n'est pas des blagues. Hein. Moi, vraiment, 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 je veux que cette nation ait le droit à l'existence, selon nos critères à nous, bien sûr, pour quelque temps seulement. On continue. Et donc, « Vecholkim kavod lechol amlachim » Il donne un tel kavod à tous les rois. « Veosim tov im kol sare haaretz » Leur patriotisme est tellement grand qu'ils font tout pour aider les différents dirigeants de nos pays. Il avait dit tout le contraire. Et maintenant, regardez ce qu'il va dire. Mais moi, je me suis fait avoir. Yesh anashim krovim la malchut. J'avais donné trop de pouvoir à certaines personnes. Je leur ai fait confiance, je leur ai donné les rênes du pouvoir. Et eux, ces traîtres, ces menteurs, ces maniganceurs, ils ne parlent plus de nous maintenant, ils parlent de Haman. Vous allez voir l'ordure. Et où est ta malchut? Comment ils ont abusé de ma confiance? Et ils ont écrit derrière mon dos toutes sortes de missives pour s'attaquer à mes sujets loyaux. J'étais même pas au courant. Ces gens-là sont des traîtres qui mettent en danger mon pouvoir. Et vous vous rendez compte qu'ils ont voulu porter la main sur des anachim tzadikim, sur des justes. Les juifs, c'est nous, Baruch Hashem, c'est bien, ils nous aiment. Védam Nakirav Lishpor, il voulait verser du sang innocent, lui qui lui-même a dit que je ne veux plus en voir un seul sur mon territoire. Alors l'Ochamas Bekam, alors ce sont de véritables innocents qui n'ont jamais fait de mal. Et eux, ils répètent, ce sont des gens qui sont tellement bons. Et regardez maintenant ce qu'il va dire. Vani Khashafti Beatsmi Kishami Meni Amacher. Quand j'ai entendu parler de cette histoire, qu'il y avait des gens menaçants dans mon royaume, que Haman s'était pour mon bien chargé d'exterminer, et pour ne pas me faire trop de soucis et m'inquiéter, il ne m'en a même pas parlé, parce que bon, je lui ai donné le pouvoir. Moi, je pensais qu'il parlait de tout le monde, mais sauf des juifs. C'est pas possible qu'il parle des juifs. On a déjà vu tout le contraire, bien sûr. D'accord. Velo Haïti Yehuda qui Yehudim aim. Je ne savais pas qu'il s'agissait des juifs. Asher Shal Mimeni, je ne savais pas qu'il s'agissait de ces gens. Que, regardez comment qu'ils nous appellent. Banim le Adon Akol, qui sont les enfants du Maître Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Vite une petite larme et des applaudissements. Le discours est tellement beau. Bon, je m'arrête parce que j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, comme c'est un texte biblique, avec son commentaire biblique, son commentaire inspiré, on voit de là quelque chose d'inimaginable. Comme tu as trouvé tout à l'heure la trace dans la Torah de Moshe de cette manière d'obtenir notre destruction, quand on veut faire valoir qu'on veut nous détruire, qu'est-ce que dit le dirigeant à son peuple? Ben, c'est les protocoles 2, c'est la cinquième colonne, c'est le nouvel ordre mondial, c'est la juiverie internationale. Mais qui de souris sont un danger pour nous et pour le monde entier. Cet argument, le premier qui l'a trouvé et il a vu que ça marchait, c'était bien sûr Pharaon. C'est un verset explicite. Mais il y a une autre trace dans la Torah à ce qu'on voit maintenant. Et celle-là, elle est chez Yaakov. Yaakov, avant sa rencontre avec Esav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a prié vers Hachem, il a dit « Atzileni name achi, atzileni name Esav. » Sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav. N'importe quel enfant qui lit ce texte sait qu'il y a une erreur grammaticale, enfin de syntaxe, de peu importe dans ce texte. Il aurait dû dire Atsileni me Esav Achi, ou me Achi Esav. Pourquoi il dit sauve-moi de mon frère, sauve-moi de Esav? C'est le même. Celui qui ne sait pas que c'est le même, il croit qu'il y en a deux. Il y a son frère et Esav. Bien sûr. Miad Achi, Miad Esav. Donc dans le texte, il semblerait que c'est deux personnages. Nos commentaires, bien sûr, posent la question pourquoi il ne sait pas parler l'hébreu, Yaakov. Et la réponse est parce qu'effectivement, il a parlé de deux personnages. Sauve-moi de lui quand il vient comme mon frère et sauve-moi de lui quand il vient comme Esav. Sauve-moi de lui tout le temps. Je ne le veux ni comme frère ni comme Esav. Plus encore, nos commentaires font remarquer qu'il a dit Achi avant Esav. Sauve-moi de lui quand il vient comme mon frère. Avant de dire « sauve-moi de lui quand il vient comme Esav », comme pour nous faire comprendre que quand il vient comme mon frère, il est encore plus dangereux que quand il vient comme Esav. Parce qu'au moins quand ton ennemi montre qu'il est ton ennemi, au moins tu peux te protéger ou essayer. Mais quand il se présente comme ton frère, ne faites surtout rien. Attendez que l'autre en face ait ce que tout le monde a peur qu'il ait. Et moi je vous promets que j'interviendrai à temps, c'est-à-dire trop tard. Ne vous inquiétez pas, c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver, de nous inquiéter, quand on nous demande de faire confiance à celui qui nous aime tant. Et donc, c'est exactement ce que dit Yaakov. Esav, quand il vient comme ton frère, il est encore plus dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il t'empêche de pouvoir te préparer et te défendre et te battre. Et pourquoi ? Parce que Esav, il connaît le tempérament juif, c'est son frère, il le connaît. Il connaît la nature juive, c'est-à-dire son défaut millénaire. Je ne sais même pas si le bon Dieu arrivera à nous guérir. Un juif fond quand on lui dit qu'on l'aime. Il fond. Et il veut tellement y croire qu'il est prêt à mettre en danger sa femme, ses enfants, toutes les générations à venir. C'est tellement bon d'entendre qu'on nous aime. Je ne sais pas d'où ça vient ce défaut, bien que vous savez que je sais, puisque je vous ai expliqué d'où vient ce défaut. C'est tout simplement le besoin de la reconnaissance, le besoin sécurisant la reconnaissance, parce que c'est dur d'être un peuple en marge depuis qu'on existe. Et donc de temps en temps, ça nous fait tellement de bien de sentir qu'on nous aime et qu'on fait partie de la famille des peuples. Mais chez nous, c'est devenu tellement exagéré, tellement maladif, qu'on se suicide à le vouloir, cet amour. Oui.
Justement, dans ce passage, « Hatzilenina miyad achi miyad esav » les rachetèves de « Hatzilenina » Miad, c'est Haman.
Bravo. Et donc il dit que dans le verset Atselinina Miad, Achi Miad Esav, les premières lettres des premiers mots forment le mot Haman, qui fait donc allusion d'une manière extraordinaire à ce qu'on est en train de lire, qu'à l'époque de Haman, et c'est ça le chidouche, on aurait pu croire qu'à l'époque de Haman, on a eu que Amalek en tant que Esav, puisque Haman c'est Esav donc Amalek, Amalek donc Esav. Mais le chidouche, c'est ce texte-là qu'on a lu. Même à l'époque de Haman, on va avoir le phénomène Achi. On va avoir le phénomène de... Bon, ce que je vais dire maintenant est à prendre, et je le dis sincèrement, avec toutes les nuances et les rectifications de ce que je vais dire maintenant, parce que ce que je vais dire maintenant, tel que je vais le dire, n'est pas 100% juste, et peut-être même pas 40% juste, mais vrai un petit peu au point de... Je peux le dire. Quel est notre plus fidèle allié aujourd'hui en Europe ?
Les États-Unis.
L'Allemagne. Bien sûr. C'est notre plus fidèle allié. Évidemment. C'est quand même incroyable. Atselinina meyadessa. Mais Yaakov avait déjà tout vu. Comment Esav peut devenir Achi? Comment Achi peut devenir Esav? Comment c'est possible? Les seuls qui ouvertement aujourd'hui nous donnent des armes pour nous protéger véritablement, plus encore que les Américains, sont les Allemands, avec les fameux sous-marins nucléaires. Parce que les armes américaines, c'est bien beau, mais elles sont sur Terre, donc elles sont plus ou moins atteignables. Mais des sous-marins, c'est extraordinaire comme arme. Comment celui qui a gazé 2,5 millions de nos enfants peut nous donner aujourd'hui des sous-marins pour nous protéger, plus que n'importe quelle arme ? Comment c'est possible? Je n'ai pas de réponse. Je dis que tout est là. Tout est dans la Torah. Yaakov l'avait déjà vu. Que le même Esav peut être Ahi, que le même Ahi peut être Esav. Et maintenant, pour revenir à ceux que vous avez cités, c'est le même phénomène. Yaakov nous a déjà dit, et c'est pour ça qu'il a mis Ahi avant Esav, méfie-toi. Celui qui t'a montré une fois le visage d'Esav ne lui fait plus jamais confiance lorsqu'il te présente le visage de Ahi. Parce que de la même manière qu'il s'est retourné comme ça, il peut se retourner comme ça, et tu ne sais pas. Une fois que tu as vu le visage de Esav, ne fais plus jamais confiance au visage de Ahi. En ce qui concerne celui qui veut aujourd'hui qu'on lui fasse tellement confiance, il a déjà eu plus de 2 ans pour nous montrer le visage de Esav. Et maintenant, tout d'un coup, on devrait accepter le visage de Ahi. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Sur ce fameux verset de Yaakov, « Atselinina meyad Ahi meyad Esav », Rashi rapporte un commentaire de nos maîtres qui dit la chose suivante. Quand vient une abeille et qu'elle rôde autour de toi, on lui dit « Je veux ni de ton miel, ni de ton dard. » L'homme est doucha, mais l'homme est uxa. Ni ton miel, ni ton dard. Ni ton dard. Je veux ni l'un ni l'autre. Dégage. Parce que le miel, c'est doux. Et je ne plaisante pas quand je vous dis que je m'engage de tout le poids de mon pouvoir pour vous protéger. Il est doux ton miel, mais on a déjà tellement été piqué par ton dard ces 2 dernières années que finalement, garde ton dard et garde ton miel. Heureusement qu'on a le maître du monde là-haut et notre force en bas. Parce que si on doit commencer à faire confiance à Pierre et Paul, mais la première fois que le monde a fait confiance à un Paul, on voit comment ça s'est retourné pour nous. Un Pierre et un Paul d'ailleurs. Pour nous les Juifs, ça n'a pas été vraiment l'annonce de grandes choses. Parce que Pierre et Paul, je veux dire, on sait comment ça s'est terminé. Oui.
C'est intéressant justement que c'est Rashbi qui dit que Alakha chez Esav sonnait Yaakov. Et on ne le voit pas pour. Il ne dit pas ça pour Ishmael. Parce que pour Ishmael, il n'y a pas besoin de le dire, c'est évident. Alors que pour Esav, justement, il fallait dire que c'est comme une sorte de Alakha qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais c'est comme ça. Parce qu'on pourrait être tenté de douter de ça. Parce que justement, il est une fois Ahri et une fois Esav.
C'est très très grand. Je n'avais pas vu que tu levais le doigt, je t'interroge tout de suite, excuse-moi. Ce que tu es en train de dire, c'est le suivant. Vous savez tous qu'il y a un texte dans le Zohar de Rabbi Shimon bar Yochai, effectivement, qui donne, je ne l'avais jamais compris comme ça vient d'être expliqué, qui donne une vision de cet enseignement, mais alors colossal. Et à mon avis, c'est tellement évident que c'est effectivement ça, le vrai sens de cet enseignement. Rashbi dit « Alachai », je vais un petit peu expliquer ce qu'il vient de dire, parce qu'il faut absolument qu'on comprenne ce qui vient d'être expliqué. Alachai, Esav sonnait Yaakov. C'est une alacha, Esav sonnait Yaakov. Tous les commentaires depuis 2000 ans que cet enseignement a été donné dans le Zohar, pas dans le Zohar, dans le Talmud, se posent la question, pourquoi il a besoin de dire alachai? Il aurait pu dire, tout simplement, Amar Rabbi Shimon, Esav sonnait Yaakov. Ou Uvdaï, ou... Mais alacha, c'est pas une alacha. Une alacha, c'est alachai la niatfilin, alachai lishmor shabbat, alachai lechol kasher. C'est une loi de mettre les tefillin, c'est une loi de manger kasher et c'est une loi de faire Shabbat. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique la chose suivante. La halakha, la loi d'Israël, comme on le sait, d'ailleurs c'est Minashaim, si tu viens en cours de demain, tu vas te rendre compte, c'est d'une certaine manière... Ah non, c'est pas le cours de demain, c'est autre chose, bon, peu importe. C'est le cours que j'ai donné chez ailleurs. La loi se situe toujours, par essence, au-dessus de la compréhension humaine. Parce que si je m'amuse à négocier avec la Torah, alors il n'y a plus de Torah, par définition. Donc, l'approche face à la halakha, c'est que tu dois savoir qu'elle n'est pas négociée, elle n'est pas discutable. Sinon, c'est plus la loi. Donc, quand Rashbi dit halakhaï, Esav sonnait Yaakov, il veut nous faire comprendre que la haine de Esav à notre égard est tellement incroyable que même quand tu le comprends plus et ton cerveau et ton cœur ne l'admettent plus parce que tout semble montrer le contraire, Rashbi dit fais-moi confiance, je te dis que même quand tu ne le comprends plus, alachai. De la même manière que tu n'essayes pas de comprendre une alacha parce que tu lui fais confiance et tu sais que ton cerveau ne peut pas toujours tout comprendre, accepte ce que je te dis comme une alacha. Alors Eric a expliqué, mais c'est pourquoi on ne l'a pas dit vis-à-vis d'Ishmaël aussi? parce que je veux dire, on n'a pas moins souffert d'Ishmaël, et aujourd'hui, en tous les cas, on souffre peut-être plus, et les maîtres parlent pour toute l'histoire, pas seulement pour l'époque contemporaine, sinon ce ne seraient pas des maîtres, ce seraient des historiens. Ce qui fait entre un historien et un maître, c'est qu'un historien ne peut comprendre que le présent ou le passé, mais ne peut pas parler du futur. Un maître d'Israël est une sorte de prophète. Son enseignement traverse l'histoire. Donc, Rashbi, pourquoi ne cite-t-il pas Ishmaël? Alors, Eric explique pourquoi. Parce que Ishmaël, on n'a pas besoin de le dire, c'est évident. C'est évident que Ishmaël, dès qu'il a l'occasion, je veux dire, lui, il fait pas l'entourloupette. Il ne fait pas comme ça. C'est clair.
Il
ne montre pas ses sabots fendus. Exactement, il n'en a pas. Donc, c'est clair. Donc, comme c'est clair, on sait à quoi s'attendre. Mais Esav, c'est sournois. Esav sait comment nous embobiner dans la farine et nous faire croire que, quand il dit qu'il nous protégera et qu'il va s'occuper de la question, c'est pas des blagues, a-t-il dit. Il sait comment nous endormir et c'est là qu'il devient dangereux. Et c'est pour ça que vient Rashbi et dit ne lui fais jamais confiance. C'est précisément lorsque tu ne crois plus qu'il est ton ennemi que peut-être à ce moment-là tu es le plus en danger. Et c'est pour ça qu'il fallait le dire. Et c'est effectivement une explication de l'enseignement de Rashbi d'une manière absolument incroyable. Oui.
Je veux juste savoir, je crois qu'il y a une prophétie, on parle de l'alliance entre l'Allemagne et l'Iran à un moment donné à la fin des temps. Est-ce que vous connaissez cette prophétie?
Non. Il y a déjà eu une alliance à la fin des temps, en ce sens que le mot arien, comme on expliquait dans un cours, je pense que tu es là,
oui.
Tu étais là, le mot arien, les premiers ariens étaient des Perses. Mm. Donc il y a eu une alliance en ce sens-là. Il y a toutes sortes d'alliances possibles, etc. En ce sens que dans les faits historiques, il n'y a que deux civilisations, deux nations ou deux peuples, je ne sais pas quel est le mot approprié, qui ont parlé de génocide. C'est l'Allemagne et les Perses. Les Perses dans le temps, l'Allemagne hier et les Perses à nouveau aujourd'hui. Donc c'est évident qu'il y a peut-être des textes, effectivement, parce que l'histoire le prouve, qui mettent en évidence quelque chose de phénoménal. C'est ou l'Allemagne, ou les Perses, ou l'Allemagne. Donc il y a peut-être, et avec cette coïncidence plus que significative du mot « arien », qui montre qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de phénoménal entre ces deux situations. On sait que sur le plan historique, comme ça a déjà été rapporté, je veux dire, même sur le plan très, 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 très concret, les maîtres à penseurs d'aujourd'hui, de toute la théologie chiite extrémiste dont Ahmadinejad est représentant, ceux qui sont derrière Khamenei, etc., ont passé eux-mêmes de nombreuses années en Allemagne et comme on le sait, on parle de celui qui est actuellement le président Khamenei, qui a vécu plus de 15 ans en Allemagne et qui avait un journal en perse néo-nazi et qui pendant longtemps a flirté avec les idées nazies quand il vivait lui-même en Allemagne. Aussi incroyable que ce soit, c'est vrai, ça peut être vérifié, personne n'en parle. Après, il est devenu président de l'État iranien. Et donc, oui, on peut en trouver effectivement quantité de relations entre les deux. Et je veux dire, oui, jusqu'à aujourd'hui, il faudrait être très, 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 très naïf et surtout, je veux dire, inconscient pour imaginer que, ça y est, la Shoah est derrière nous et ce peuple a montré maintenant plus que jamais comme quoi, ça y est, il n'y avait plus rien à craindre. Non, Atsilenina miyad achim miyad esav. Mais en tous les cas, aujourd'hui, à vision humaine, le danger n'est pas là-bas. Et ça ne vient pas de là-bas. Le vrai danger aujourd'hui, il vient d'ailleurs. Il vient justement de cette mise en évidence de la dimension Ahi, je suis votre frère, et qui vient de là où elle vient, surtout dans un moment à ce point crucial, parce que c'est absolument inimaginable. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Parce que, je veux dire, tout le monde comprend que la différence entre les États-Unis ou même l'Europe face à la menace iranienne, la différence est évidente. C'est parce que même si une bombe tombe en Europe, elle ne peut pas exterminer l'Europe. Parce que la riposte est tellement rapide au même moment que de toute façon, il n'y a plus d'Iran avant qu'il n'y ait plus d'Europe. Mais Israël, ce n'est pas comme ça. Israël, c'est le temps de le dire et c'est fini. Parce que c'est un mouchoir de poche. Donc le problème est si tout s'enflamme et tout le monde devient fou, et dans la mesure où le principe de Tamut Nafshecha Im Plishtim, le principe de perdu pour perdu, et ben que eux au moins disparaissent, c'est absolument évident que tous ceux qui ont la bombe atomique, Si demain ils sont dans une situation de catastrophe et qu'ils n'ont plus rien à perdre, c'est absolument évident que leur dernier souci sera d'envoyer sur Israël. Alors on va riposter. Ah mais si, riposter. T'es grand comme un village. Bon, ça veut dire quoi? Qui va riposter? Mais si tu ripostes, ça nous fait de belles jambes qu'il n'y ait plus de Perses. On cherche pas ce qui est plus de Perses, on les aime les Perses. C'est un peuple merveilleux, extraordinaire. Le monde pourrait pas se passer de l'Iran. C'est un peuple extraordinaire. Et donc on veut pas la disparition des Iraniens, nous, parce que le monde a besoin d'eux. Et donc, mais eux, ils s'en foutent de notre présence. Enfin, pas eux, pas le peuple iranien, les dirigeants et ceux qui sont derrière. En tous les cas, donc, évidemment que Israël se trouve dans une situation aujourd'hui absolument catastrophique et que sans l'aide d'Hachem et de ses envoyés sur terre, ceux qui sont censés nous représenter, je veux dire, c'est évident qu'aujourd'hui, plus que jamais, le peuple juif est en danger face à cette manigance de Ahi, de se présenter comme notre grand frère, notre protecteur, parce que c'est justement de cette manière-là qu'il risque de nous fragiliser, parce que le peuple juif a tendance à prendre pour monnaie comptante ce qu'on lui fait croire. En tous les cas, on l'a vu et on termine que tout ce qui nous arrive, et c'est pour ça que c'est de l'histoire biblique, je pense que pendant 15 jours, on a eu la possibilité donc d'étudier la Megillat Esther comme peut-être rarement ça a été fait. Et on voit donc que finalement, c'est pas pour rien que ce texte-là est un texte biblique, c'est pour ça que j'ai choisi ce cours comme étant le dernier des cours, parce que s'il y a bien un cours qui montre à quel point toutes ces notions écrites il y a des millénaires sont encore en avance sur notre présent, c'est bien le cours d'aujourd'hui. Rien n'a changé, tout continue exactement comme tout est décrit, mais d'un autre côté, on a aussi l'autre dimension de la Megillat Esther, qui est cette promesse que finalement, Mordechai lo yichave lo yishtachave, qu'il y a toujours à l'intérieur du peuple juif des hommes qui ne se prosternent pas, qui ne se font pas avoir, qui ne se laissent pas avoir, et ce sont ces hommes qui finalement assurent la pérennité de notre peuple de génération en génération.